Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de fin de séance. Un épisode où je recevais Baptiste Beaulieu, écrivain, et Pierre-Julien Alquier, joueur professionnel, avec qui on a pu parler du film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, un film de Guy Ritchie sorti le 17 mai 2017. Mais on a aussi parlé en deuxième partie de... du show d'Alien Covenant. On n'a finalement pas fait d'épisode dédié, mais voilà, je pense qu'on en a presque plus parlé que Le Roi Arthur. Film de Ridley Scott, Alien Covenant, avec Michael Fassbender, Catherine Waterson et Billy Crudup, qui était sorti le 10 mai 2017. Voilà, quoi dire de plus, si ce n'est que, bon, c'est un enregistrement, un peu spécial, parce que on va dire qu'on était tous un petit peu fatigués, donc vous nous excuserez si, si on n'a pas l'air très très péchu, mais je pense qu'on dit des choses assez intéressantes tout de même. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller aimer la page fin de séance sur Facebook, d'aller vous abonner sur le flux RSS sur iTunes, et bien sûr, vous abonner également au Twitter, à l'Instagram, comme d'hab quoi. Hein ? Ok, bon allez, bisous à tous. Et bonne écoute. C'est mon lecteur MP3, tu sais, celui que je décide de...
Bah oui,
vas-y, mais laisse ça de suite ici, c'est pour m'engager, c'est pour m'engager au MMA, tu sais.
Excuse-moi, mais balles, ceux qui ont mis 4 étoiles au roi Arthur, c'est Closer et Femme Actuelle.
Non, non, mais moi, la presse, je ne lis jamais la presse. La presse ne veut rien dire pour moi. À partir du moment où tu es payé pour faire quelque chose, tu es souillé. c'est vrai, tu es souillé, c'est faux.
Non, mais t'es payé pour donner un avis, qu'il soit positif ou négatif. On ne paye pas pour qu'il soit
forcément positif. Exactement, tu es payé pour donner un avis positif ou négatif. Encore une fois, c'est la même discussion qu'on a eue tout à l'heure. Il n'y a pas de nuance, tu vois.
Toujours, des critiques,
toujours plus vendeur de dire ce film c'est de la merde. Quand tu... Oui, non, mais voilà, oui, voilà. Mais en général, personne ne veut lire ça. Personne ne veut lire quelqu'un qui reste dans la mesure. Oui, il y a des bonnes choses, il y a pas des bonnes choses. Du coup, la personne se dit, ben, je sais pas. Est-ce que je dois aller au cinéma ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu fais pas vendre. Alors que moi, c'est gratuit ce que je fais. Et toi, ce que tu vas dire, c'est gratuit. Donc mesure bien tes propos. Ah, baby bobu, pardon.
500 pompes quotidiennes et 10 kilos de muscles pris.
Pour Jean-Claude?
Pour Jean-Claude Dunham. Une âme.
Jean-Francis, une âme. Alors oui, déjà, est-ce que vous avez une pensée à dire? Parce que Tom Hardy va jouer dans Venom. Genre, il va y avoir un spin-off de Spider-Man.
Venom comme perso. Après, je préfère Carnage, j'aimerais bien voir Carnage.
Bah, peut-être qu'il sera dedans aussi. Mais... C'est pas un peu genre raté de faire Tom Hardy arriver dans le Marvel Universe, mais en tant que méchant qui va probablement genre mourir dans son film, tu vois ce que je veux dire? Ou bah, puisque c'est un méchant, il va probablement être tué par Tom Holland qui joue Spider-Man.
Alors attends,
tu vois ce que je veux dire?
Ça signifie que là, le titre du film, ce sera Venom?
Ouais, donc probablement, il va pas. Ok, il va peut-être pas mourir dans son film Venom, mais dans Superman 2, tu vois.
Mais ça serait
Spider-Man 2.
Ça serait la première fois qu'il y aurait un film Marvel sur un super vilain. Ça, c'est intéressant.
Sur un film Marvel, oui, c'est vrai.
Après, il y a eu, pour le DC, il y a eu Suicide Squad, donc quelque part, soi-disant, c'est censé être des vilains.
C'est vrai.
Mais en fait, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Des milliers de trucs qui y a à faire ou qui a clôturé dans le Marvel.
Si je me souviens bien, la critique justement qui était faite à Suicide Squad, c'était le fait que c'était pas vraiment des super vilains.
Ouais.
Donc, si là, vraiment, ça peut être vraiment un film sur un super vilain, ça serait chouette.
Parce que, regarde, le film s'appelle Venom. Ok, donc admettons, ok, on va probablement voir Spider-Man,
bah oui.
Mais on va pas voir le clash Spider-Man Venom qui va conduire à la fin de Venom, parce que probablement sinon, ils vont se le réserver. Spider-Man. Voilà, sinon ils vont se le réserver probablement pour Spider-Man 2 ou un truc comme ça. Donc il faut que Venom survive, mais quand même soit méchant, parce qu'on est d'accord, on va pas garder juste l'astronaute qui se fait envenimer par l'extraterrestre pendant tout le film.
Le symbiote, ouais.
Donc il faut vraiment qu'il soit méchant.
Oui, non, parce que dans la BD, c'est parfois Venom, il aide Spider-Man. C'est arrivé, ça, souvent.
Ouais, mais bon, ça arrive au bout de combien de morts, tu vois.
Oui, oui.
Mais c'est ça, c'est pas possible. Genre, à moins qu'ils se disent, on fait un Hannibal Lecter, mais même, Hannibal Lecter, il perd à la fin de
son... J'avais lu qu'il voulait faire un film, une sorte de film qui fait peur, vraiment, un film qui fait peur, tu vois.
Ah oui, voilà. Alors, voilà, soit, sinon, ils le prennent comme film d'horreur.
Ouais.
Et là, par contre, on arrête de rigoler et on tue 1000 personnes dedans, quoi. Il y avait la série, je sais pas si t'as vu, ils vont faire la série Star Trek qui va passer sur
Netflix. Oui, j'ai vu la bande-annonce
sur Netflix, ouais.
Elle a l'air très bien.
Ça a l'air pas mal, hein, parce qu'en fait, du coup, ça va s'inscrire, par contre, dans les nouveaux films. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas dans l'ancien canon, etc. Donc, ça va s'inscrire dans les films avec Chris Pine, etc.
Ah, super.
Donc, c'est vrai que... Parce que moi, je n'ai jamais vraiment non plus trop aimé les Star Trek, quoi. Tu vois, j'ai toujours été plus fan de Star Wars. Mais par contre, j'accepte fortement les nouveaux films Star Trek de J.J. Abrams. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
De toute façon, J.J. Abrams, il chierait sur la table, tu dirais, oh, vous avez bien
mangé. Alors là, pas du tout. Je suis pile justement le gars qui est quand même assez critique de ce gars. Genre moi, Super 8, j'ai pas du tout aimé.
Ah ouais?
Ouais, non. Et toi non plus?
Non plus.
Ah.
J'ai bien aimé.
Ouais, pour moi c'était, enfin pour moi en fait il se passait rien. C'est typiquement le film où tu enlèves les protagonistes, il se passe exactement la même chose, donc ça m'intéresse pas. Mais voilà, mais bon, bref. Mais je trouve ça pas mal quand même, ce qu'il a pu faire pour l'instant.
Et après j'ai vu une interview. Je sais plus si c'est Kathleen Kennedy ou quelqu'un d'autre, c'est une productrice de Star Wars.
Ouais.
Qui disait, je spoil rien là, qui disait, alors c'est peut-être juste pour le merchandising, le marketing, elle prépare la sauce, tu vois. Mm-hmm. Elle disait, préparez-vous à tomber votre chaise, il y a une révélation dans le prochain Star Wars, mais qui, à côté de laquelle Dark Vador qui dit à Luke, je suis ton père, paraîtrait vraiment du pipi de chat, quoi. Elle dit, c'est un truc incroyable, énorme.
Enfin, ouais, je veux pas trop.
Parce qu'on a déjà pensé à tout, donc je vois pas en quoi elle pourrait nous surprendre, quoi.
Bah, je t'avoue que ouais, je sais pas ce que ça pourrait être exactement, parce que il y a sur Rey, j'imagine, le fait ouais, mais bon, enfin en même temps Rey, la théorie que j'ai lue récemment, c'est qu'en fait c'est la réincarnation de
Anakin.
Ouais.
Anakin Skywalker.
Oui,
c'est n'importe
quoi. Ah non, ce serait pas bien ça. Ce serait mieux que ce soit la réincarnation d'Obi-Wan.
Parce ouais, mais non, coup, parce qu'en fait, Obi-Wan, c'est une vraie personne, alors que Anakin, c'est quelqu'un qui est créé par la Force.
Ah.
Donc là, il dirait qu'en fait, c'est pour ça qu'elle a eu ses visions et qu'elle se rappelait. Je crois qu'à un moment, elle s'est rappelée de Mustafar. Il faudrait que je revoie le set, peut-être, mais bon, le set, c'est très chiant. Quoi.
Ça voudrait dire que quelqu'un l'a porté comme Shmi Skywalker.
Voilà, peut-être, ouais.
D'accord. Mais qui l'a porté?
Ça, je sais pas.
Et voilà.
Et oui, il faudrait qu'elle soit née juste après la mort de Dark Vador.
Et ouais, parce qu'en fait, j'allais dire, genre, imagine Dark Vador s'est fait cloner sur Kamino, tu sais. Et ensuite, il l'a déposé là. Ouais, mais non, c'est nul. De toute façon, là, je t'avoue que les nouveaux Star Wars, là,
ouais,
je pense que je préfère d'avance les spin-offs que ces histoires-là, quoi. J'espère qu'ils vont arrêter de nous parler des étoiles noires et des trucs qui envoient des rayons laser sur les planètes, parce que j'en ai marre, là.
Pour le deuxième, je pense qu'il n'y aura pas d'étoiles noires, mais...
Bah, il y a intérêt, hein.
Peut-être pour le troisième, pour le neuf, il y aura une étoile noire. Deux. Mais ça fait une bonne transition, pour parler d'épuisement de franchise, une bonne transition sur Alien Covenant.
Mais non, mais on va pas parler d'Alien Covenant maintenant. Arrêtez de
non, après, tu vois, il y a un truc que moi j'ai mis dans les Star Trek et qu'on retrouve pas trop dans les Star Wars. Dans les Star Wars, les antagonismes sont humains. C'est-à-dire que c'est humain versus humain. Ou Jedi versus Jedi, tu vois.
Ouais.
Enfin, c'est pas la race humaine contre une autre race, comme les Klingons, les Borg, tu vois, tout ça. Et ça, j'aimais bien cette idée-là du choc de civilisation entre différentes races qu'on retrouve dans les Star Trek et qu'on retrouve pas du tout dans les Star Wars, tu vois.
Mmh. Ouais, parce que après Star Trek, ça a été inventé donc dans les années 60, et c'était un peu comme les X-Men, c'est-à-dire que Roddenberry à la télé, à chaque fois, il écrivait des choses pour parler de ce qui se passait dans la société, donc le racisme ou alors l'homosexualité ou des conneries comme ça, et du coup, ouais, ça se transcrivait plus dans les sujets sociétaux actuels, alors que oui, dans Star Wars. On est plus dans le mythe, enfin l'Odyssée du héros.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Et
c'est beaucoup moins sociologique Star Wars que Star
Alors,
Trek.
Alors dans les films, oui. Après dans l'univers étendu, il y a toujours des mini perles, des trucs intéressants, etc. Mmh. Et d'ailleurs, on en revient à la question que je posais, je sais plus quand. Ah oui, bah, pour Guardians of the Galaxy la dernière fois justement, sur le fait que je sais que c'est dans l'univers étendu de Star Wars, on explique que l'Empire est un peu raciste.
Mmh,
et qui ne veut que des humains.
Mmh. Ouais.
Et c'est pour ça qu'on voit très rarement des aliens, parce que les troopers, c'est que des humains, quoi, tu vois.
Et puis, oui, l'Empire, les.
C'est pas expliqué dans les films, en fait, c'est que dans l'univers étendu.
Et puis, dans l'Empire, les postes clés de commandement sont en général réservés aux humains. Il y a quelques exceptions.
Et voilà, et c'est pour ça, oui, avec tous les. Mais bon, là, on rentre dans les trucs de geek, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant, et bon, ça rajoute juste un peu plus de nazisme à l'Empire. Mmh. Mais c'est vrai que tant que c'est pas adressé dans le film, ben c'est même pas un sujet, tu vois. Mais d'ailleurs, et c'est ça aussi que j'ai pas aimé, notamment dans l'épisode 7, c'est que normalement, on est dans Star Wars, donc tout ce qui est genre, tout ce qui est race, etc., tout le monde s'en fout. Or, il y a eu un moment, cette scène avec Rey au début, où, tu sais, elle doit se défendre contre des gens qui l'attaquent.
Ouais.
Et soi-disant, Finn, à un moment, il va vers elle pour l'aider.
Mm-hmm.
Non, en fait. Je sais pas. Il irait pas aider un mec. Il irait pas aider... c'est bizarre. Et il y a cette espèce de clin d'œil qui est fait exprès pour dire « Non, mais c'est pas parce que je suis une fille que je ne sais pas me défendre. » Oui, moi je le sais. Finn est censé encore mieux le savoir puisqu'il vit dans un monde où il y a ni sexisme ni racisme, tu vois. Donc c'est quand même.
Pas de sexisme, en attendant, c'est quand même des femmes que Jabba le Hutt réduisait en esclavage sexuel, tu vois ce que je veux dire.
Oui, après peut-être qu'effectivement, mais c'est parce que Tatooine, la bordure extérieure dans Star Wars, c'est un peu notre monde, quoi.
Et puis on peut voir, il y a le comportement d'Han Solo. J'ai vu une vidéo récente sur le comportement d'Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Non, c'est très sérieux par rapport à par rapport à Leia et
il agit comme un violeur.
Il agit comme un prédateur sexuel et ça, c'est très gênant en fait.
Attends, pourquoi il dit quoi en fait? C'est quoi? Quels sont ses comportements ou ses actions?
Il est un peu dans la, il est laissé de la soumettre, de la forcer un petit peu.
Et c'est vrai qu'il y a plusieurs.
Il y a pas forcément le consentement en fait.
Tu t'aperçois qu'il a séduit soit par la frayeur, soit par la surprise, si tu veux. Il joue pas franc jeu dans le jeu de la séduction.
Ouais, tout à fait.
Donc en fait, c'est quoi le franc jeu du coup? C'est s'asseoir autour d'une table avec elle et dire écoute Leia, je pense que j'ai des sentiments pour toi. Enfin, je sais que là on est en train d'être suivi par l'Empire.
Tu regardes la vidéo, c'est plus développé sur la vidéo avec de solides arguments que je n'ai plus, mais qui sont recevables.
D'accord.
Et puis il y a toujours cette idée
de la regarder, mais j'ai envie de la réfuter quand même. Non mais c'est cette idée importante de cette idée que on transmettrait aux garçons que quand les filles disent non, ça voudrait dire oui.
Ah d'accord.
Voilà, et ça c'est quand même
ça,
intéressant.
Contre, j'avoue qu'il faudrait que je le regarde, mais si effectivement.
Oui, c'était ça en fait.
C'était par rapport à ça. C'est
par
le fait que
par
rapport au consentement que quand certains garçons pensent. Que quand une fille quand une fille dit non, ça veut dire oui.
Alors titre, qu'est-ce que tu dis?
Non, on fait croire en fait cette vidéo, elle engramme dans la tête.
Oui, d'accord, je vois ce que tu dis.
À juste titre, ils ont raison d'insister quand une fille dit non parce qu'il y a quand même une possibilité qu'elle est quand
même.
Oui,
d'accord, bien sûr.
Non, bien sûr, à juste titre.
D'accord.
Ça abîme un peu le mythe de l'Empire contre-attaque, c'est assez
dingue. Ah non, 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 bah, Han Solo, ne l'oublions pas, est un contrebandier, ouais, hors la loi, ok, donc violeur, en plus, pourquoi pas, ouais.
Sauf qu'il s'adoucit dès la fin de l'épisode 4.
En fait, c'est
fin de séance ou fin de Star Wars
Trempez vos violeurs dans de la carbonite, et ils en sortiront, mais vraiment nickel. Oui, il a été refroidi, t'as raison, il a vraiment été refroidi.
Et c'est une métaphore pour refroidir ses carbonites, ça permet de refroidir ses pulsions et ses sexuels.
Et ça te rend plus humble.
Ça le rend plus adapté à la société.
Tu crois?
Ouais.
Je pensais que c'était une métaphore du sécos, moi, tu sais.
Du sécos?
Le sécos, c'est le centre de conservation des semences masculines et féminines.
Ah.
Tu sais, c'est là où on met tous les dons de sperme, d'ovaires, tout ça. Mais ça, tu couperas, hein, c'est pas...
Non, je couperai rien du tout. Attends, mais tu veux dire qu'il n'y a pas qu'un seul centre, c'est pas possible.
Ah non, mais il y en a un par département.
Oui, voilà, on est d'accord. Genre, tu sais, vite, vite, réfrigère-le. Pensez à quelqu'un qui a eu... Ça, je vais le couper par contre.
Oui, c'est ça.
Bref.
Par contre, on n'est pas venu pour parler de Star Wars, si.
On est venu pour parler de... Je t'ai demandé de regarder les news ciné. Qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as sorti la poudre de perlimpin.
C'est pas faux. Et pour Star Wars, tu vois, je réfléchissais à un truc. Deux choses, en fait. Il dit il y a bien longtemps dans une lointaine galaxie. Donc déjà, s'il y a bien longtemps, où est-ce qu'elles sont, toutes ces races, tous ces vaisseaux, tout ça? Pourquoi on ne les voit pas?
T'as dans une lointaine galaxie, oui.
Oui, c'est pas parce qu'elle est lointaine... Vu la vitesse de la lumière qui...
Non, parce que tous les voyages qu'ils font sont intragalactiques.
Intragalactiques, ouais.
Ah ouais.
Ils ne peuvent pas sortir de la...
ils n'en sortent pas.
Ah.
D'ailleurs, il n'y a même pas de midi-chlorien hors de la galaxie.
Ah bon?
Ouais.
T'es sûr de ça?
Ouais, parce que dans l'univers étendu, il y a la race des Yuuzhan Vong qui viennent de l'extérieur de la galaxie.
Et ils n'ont
pas de midi-chlorien.
Donc, ils n'ont pas d'utilisateur de la force.
Effectivement.
Comment tu le sais, ça? Tu l'as vu où?
C'est dans l'univers.
Mais ça, c'est plus valable, hein, tu sais, maintenant.
C'est
avec
plus canon.
Disney.
C'est plus
Disney
canon,
a tout annulé, il a fait table rase.
Ouais. Le roi Arthur, 2 points, la légende d'Excalibur. C'est le titre.
Le titre est pourri, quoi.
C'est le titre en français. En VO, c'est King Arthur, Legend of the Sword. Ok, donc film de Guy Ritchie sorti le 17 mai 2017 avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès Frisby, Judd Law, entre autres. Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit dans le même temps de son avenir. Tintintin, petit clip.
Tu n'as plus à te sauver, tu n'as plus à détourner les yeux. L'épée est tienne, mon fils. Prends-la. Pourquoi est-ce que l'épée se révèle aujourd'hui?
Je vais te montrer. Je vais.
On verra lorsque ça donne. Lève-toi, le roi Arthur.
Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du roi Arthur?
Ben oui, ben écoute, je pense que c'est une purge. Je pense que ce film est une purge. Je pense que Guy Ritchie, que j'aime beaucoup, que j'ai aimé dans certains films, tu vois. Maintenant, c'est dommage, il filme avec ses pieds, pour pas dire autre chose, voire même la partie de son corps qui voit jamais la lumière, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment mauvais, quoi.
Son trou de balle, tu vois,
ouais, voilà.
Qu'il a une steadicam plantée sur son,
exactement,
sur son cul et qu'il,
exactement,
filme avec.
J'avais envie de gerber à cause du montage qui est épileptique, c'est pas possible, quoi. Tu sens qu'il y a le clipper derrière qui s'est fait plaisir, qui se donne. En fait, c'est l'exemple typique du mec qui veut se donner un style, et en se donnant du style, il invente des trucs en se disant tiens, je vais mettre plein d'images en même temps et tout ça, ça va faire du style. Ben non, ça fait juste plein d'images en même temps qui sont complètement désordonnées et qui nous donnent envie de vomir le petit déjeuner, quoi. Vraiment.
Tu l'as vu en 3D ou en 2D?
En 2D.
Avec
son Atmos.
Mais t'as des scènes sur ça, ou en gros les scènes d'action, les scènes de choses comme ça, pour toi ça allait trop vite, quoi. Montage trop rapide.
Un combat, c'est beau quand tu peux voir la chorégraphie du combat.
D'accord.
Quand tu vois juste paf, 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 coup d'épée, que tu vois même pas d'où part le coup d'épée, où il arrive, mais que tu passes un peu mon coup d'épée d'après, il n'y a pas de chorégraphie du combat, quoi.
Alors attends, tu parles des scènes de combat avec Excalibur ou des scènes
mais
de combat en général?
Tout, j'en sais rien, tout est d'un ridicule, à part les dorsaux de Charlie Hunnam, tout est ridicule en ce film, quoi. C'est dingue, à part peut-être la scène d'ouverture qui est plutôt bien faite, qui est jolie. Je suis désolé.
Ah, c'est marrant ça, parce que.
Pardon, vas-y.
Non, mais la scène d'ouverture, enfin, elle est assez. Elle est ultra typée épique, en fait, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le film commence et il commence avec des olifantes.
C'est magnifique.
Etc.
C'est dingue.
Je trouve qu'effectivement, voilà, pour te dire, sur certains dialogues, Guy Ritchie a fait un peu trop de Guy Ritchie, dans le sens où, en gros, je sens des blagues de papa qui étaient de l'époque de Snatch, des blagues modernes. Quand il y a des dialogues à base de vieux Mike ou Mike le gros, de qui tu parles, etc. Quand il y a ces dialogues-là, je vois où il veut en venir et je pense que ça traîne un peu trop, où il veut un peu trop en faire, où je vois le mec qui veut me faire rire, mais c'est un petit peu trop, mais c'est pas non plus pour moi à jeter. Et surtout le fait que, bizarrement, en fait, on arrive voilà, à Londonium juste après avoir eu une scène épique digne du Seigneur des Anneaux, je me dis, tiens, il y a un truc étrange, mais assumé, et j'étais d'accord. Après, voilà, ma vision de ce film, c'est qu'on est vraiment dans le pur mythe du héros à la Joseph Campbell. Mm-hmm. On est dans une pure analyse des combats internes d'une personne pour, en gros, s'améliorer, tout simplement, et devenir la personne qu'il est censé vouloir être. Tout le long de ce film, s'extraire de sa condition d'homme pour être le roi. Il y a plein de dialogues qui sont internes à ça, notamment la mage, à un moment, qui lui dit « Tout le monde détourne le regard, même moi je le fais, mais ne pas détourner le regard, sous-entendu de ses problèmes, c'est ce qui différencie l'homme du roi. » Il y a tout le temps ça, tout le temps le mythe vraiment du héros, toujours avec le « je vais combattre dans les ténèbres pour me déconstruire puis me reconstruire, etc. » On a vraiment tout le truc qu'il faut. Et en fait, la question, c'est, est-ce que, certes, classique mythe du héros qu'on a pu voir dans plein de choses différentes, notamment d'ailleurs de Star Wars dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant à dire de cette façon-là? Et j'avoue que moi, j'ai plutôt apprécié. J'ai adoré Jude Law. Il était excellent. Charlie Hunnam, je sais pas. Et je sais que ce film fait un bide, et je sais pas, je l'aime beaucoup, ce gars. Et d'ailleurs, il vient de Sons of Anarchy.
Ouais, je l'aime beaucoup.
Qui est d'ailleurs, si tu réfléchis, d'ailleurs, Sons of Anarchy, c'est un peu la table d'Arthur, en fait, aussi. Et je sais pas si il peut porter un film comme ça encore sur ses épaules, tu vois, je sais pas, qui sont musclés, je suis d'accord.
Il a un certain charisme.
Il a un charisme, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que il suffit à... Je fais, parce que j'ai envie de faire le parallèle avec Sherlock Holmes, est-ce que Robert Downey Jr.
Ouais, est capable de porter un truc comme ça?
Voilà,
oui.
Parce que c'est le charisme, est-ce que c'est le charisme de Robert Downey Jr. ou la compétence de Guy Ritchie qui font que Sherlock Holmes est bon? Ouais. Je pense que les deux, clairement, parce que il y a des supers idées dans Sherlock Holmes. Et dans celui-ci, voilà, moi, de ce que je peux dire de ce que fait Guy Ritchie, c'est plutôt en termes de sa narration complète. Après, en termes d'inventivité, j'avoue que, voilà, on a quoi? On a les montages. Les montages, j'avoue que j'ai adoré, c'est-à-dire le fait de voir Arthur grandir, mais aussi pas mal de petites d'autres choses comme ça. Moi,
alors,
moi
justement, les 10 premières minutes.
Justement, je voulais prendre le contre-pied de Jean-Baptiste par rapport à cette idée de montage frénétique, puisque j'ai beaucoup aimé cette scène en particulier, donc qui dépeint l'enfance et l'adolescence d'Arthur comme voyou de rue, plus ou moins.
Ouais.
Voyou de rue au grand cœur, a priori, mais voilà, c'est une succession de plans très très rapides. Je crois que c'est rythmé en musique, d'ailleurs.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça plutôt agréable, plutôt chouette à regarder. C'était un montage que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai aimé le personnage de méchant de Jude Law. Le design aussi des sirènes. Donc,
ah oui,
qui est
la pieuvre sirène à trois personnes, là, c'était pas mal.
J'avoue, elle est très bien faite.
Ça, c'est
elle
très
bien faite.
Et puis, j'ai bien aimé ce côté, je m'y attendais un petit peu, ce côté truc de la rue, quoi, comme à chaque fois dans les trucs de Guy Ritchie. Surtout que, a priori, avec un roi, ça fait un peu du contre-emploi, en fait, je trouve, de voir un voyou qui vit dans un bordel, qui vit de petits trafics, qui petit à petit devient finalement le roi. C'était plutôt original, donc j'ai bien aimé. Après, le scénario reste très très standard, on va dire. Il y a pas de... Donc c'est plus la manière de le traiter, en fait, c'est l'esthétique et le montage que j'ai trouvé la musique que j'ai trouvé sympa, pas le scénario en lui-même. C'est pour ça que je peux pas dire que ce soit un film fantastique, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, mais le truc, c'est que, voilà, il n'y a rien d'extrêmement original. Pour moi, c'est quelque chose de plaisant. Des acteurs convaincants, même si on a David Beckham qui vient faire un petit coucou. Ça aussi, je sais pas si c'était pas c'était pas indispensable, en fait, d'avoir ces petits clins d'œil. Du coup, c'est vrai que Guy Ritchie, là, j'aime pas quand ils ont trop d'indulgence envers eux-mêmes, quoi. Où ils se disent, tiens, moi, je peux me permettre de m'amuser là, si ça sert pas vraiment l'histoire. Mais j'ai quand même passé un bon moment et j'ai toujours trouvé assez intéressant, parce que voilà, il faut que j'avoue, j'ai écouté un podcast avec Guy Ritchie avant. Et en fait, il a tout de suite parlé de tout ce qui était lecture sur un autre degré de son film. Mmh. Forcément, j'ai eu les yeux qui étaient un petit peu biaisés par ça quand j'ai commencé à regarder le film. Donc j'ai moins payé attention à tout ce qui est détail de l'histoire. On parlait tout à l'heure de la présence de serpents, l'utilisation de serpents par les mages ou l'histoire des mages dans le truc. Mmh. Mais j'étais beaucoup plus dans la symbolique de absolument tout ce qu'il y avait dans le film. Et je trouvais qu'effectivement, c'était toujours très intéressant. Et presque à chaque fois qu'il y avait des dialogues sur ces sujets-là, j'étais plus en introspection et en faisant « Ah ouais, intéressant, c'est bien... » Bien joué, bien mené. Et du coup, je voyais, voilà, cette personne devenir la personne qu'il voulait ou devait être, avec assez d'intérêt, en fait.
Oui, mais du coup, t'as un biais, puisque t'as regardé le film en ayant déjà plus ou moins des clés données par le réalisateur.
C'est vrai, mais bon, tout comme des gens, vous pourrez avoir un biais en ayant vu des bandes annonces, etc. Mais voilà, bon, en tout cas, c'était ma vision du film. Malheureusement, aucun de nous ne l'a vu en 3D, et il semblerait que, en tout cas, après l'avoir vu en 2D, je me rends compte qu'il y a pas mal de scènes d'action qui sont pensées en 3D, mmh. où il y a des choses qui se passent sur plusieurs plans différents. Mmh. Donc je regrette un peu. Ouais, j'ai eu une discussion avec des responsables du cinéma à Gaumont à Toulouse, où en gros ils n'étaient pas non plus ultra ravis de la 3D de ce film. Alors je sais pas si
sur Twitter.
Ouais. Et je sais pas si, par contre, c'est parce que ici on a que de la 3D passive. Parce que moi, de ce que j'ai lu comme article, il y a des gens qui sont partis le voir en 2D puis en 3D et qui ont dit que quand même la 3D était un gros plus aux scènes d'action, en fait. Donc c'est vrai que ce que tu reprochais tout à l'heure, Baptiste, aux scènes d'action, peut-être le montage rapide, mais la non-lisibilité au moins, peut-être vient du fait que tout est ramassé en 2D au lieu d'être sur plusieurs plans différents en 3D. Et ça, c'est vrai qu'on le voit dès le début, dès la première patte de l'olifante qui arrive sur première scène, quoi. Tu te dis, ah ouais, ça, c'est vrai qu'en 3D, ça donnerait peut-être un peu mieux, en fait.
Il y a presque, je trouve, dans certains affrontements, il y a un côté esthétique jeu vidéo, un petit peu.
Oui, et c'est pour ça que je voulais rebondir, que j'étais en train de chercher. Je voudrais, bon, c'est un peu compliqué. Les auditeurs, je voudrais qu'ils tapent Shao Kahn sur Google et qu'ils regardent Google Images. Voilà l'empereur Shao Kahn dans Mortal Kombat.
Ah. Ah oui, tout à fait.
Excuse-moi, quoi.
Ah oui, c'est par rapport à Judo, c'est ça ?
C'est le copier-coller du méchant de Judo.
Ouais, c'est vrai.
D'accord. Tout à fait.
Voilà.
Est-ce d'où que l'esthétique moi, j'ai bien aimé les costumes un peu en cuir, machin. Alors, je sais pas. Oui, on voit qu'ils ont envie que tu te dises qu'ils sont cool. Mais oui, je trouve ça cool, en fait. Non, vous avez pas aimé sa façon, enfin, tous les costumes de ce film.
Voilà. Bah, pour le coup, on est, à certains moments, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans de l'heroic fantasy, type Seigneur des Anneaux. Et à certains moments, on est dans des costumes de bandits de rue, quoi.
Ouais.
Presque même 18e ou 19e siècle, ouais. En fait. Et c'est ce contraste qui est rigolo, qui est assez inattendu, je trouve.
Après, et vous le disiez, hors antenne, il y a moins de... Voilà, on s'attarde moins au niveau des personnages, mais encore une fois, comme j'ai eu ma vision un peu biaisée, je m'en fous, en fait, parce que moi, les autres personnages, pour moi, font partie d'un même personnage, et font partie de la tête d'Arthur, en fait.
Je suis pas d'accord avec toi, là. Tu dis...
Mais en même temps... Attends, je finis. Mais en même temps, j'en retire quand même... Enfin, je ne les ai pas non plus tous oubliés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a peut-être pas eu le temps de dessiner tout le monde, mais je retiens quelques bonnes scènes. C'est-à-dire que, que tu l'aimes ou pas, moi, je me souviens de Kung Fu George, tu vois. Je me souviens Je me souviens de Littlefinger de Game of Thrones là, ouais. Qui voilà, j'aime bien ce personnage qui d'ailleurs je trouve que il faudrait plus l'utiliser en tant que gentil dans les films parce que je trouve que ça lui va plutôt bien,
ouais,
dans celui-là, il est assez convaincant. Et je me souviens de cette petite scène très intéressante qu'il y a entre Jude Law et un des compagnons d'Arthur,
ouais.
Qui se retrouve un peu voilà, mal en point devant Jude Law. Et
elle
ça,
est très belle,
donc,
cette
tu
scène,
veux,
je suis d'accord.
Certes, c'est pas, il n'y a hein. pas des particulièrement de second rôle très étouffé, mais en fait, je dirais que c'est plus... Il n'y a pas vraiment de... Ce sont tous des seconds rôles. Même Arthur, quelque part, c'est un second rôle. Parce qu'on voit quand même beaucoup de Jude Law dans ce film.
Mm-hmm.
Mine ce que de tu veux rien, dire, c'est que ce sont des de... seconds rôles qui sont là pour servir les plats à l'histoire principale, qui est celle d'un individu qui va se découvrir et qui va devoir se révéler roi.
Après, c'est le but d'un second rôle aussi. Hein. C'est
oui,
là
ce
pour
que
servir
sauf
le...
que
même si, voilà.
Ça ne nous raconte pas ça. Ça ne raconte jamais ça. Ça ne raconte jamais... quelle leçon il va apprendre de son état de prolétarien de base pour devenir roi. Il n'y a aucune leçon dans ce film. C'est, il va tuer, il va sauver,
suis...
il va,
ça,
tuer,
c'est vrai.
Va sauver.
Je ne suis pas trop d'accord parce que justement, c'est toute une introspection sur son passé qu'il ne voulait pas, ou plutôt qu'il voulait balayer de sa mémoire. Et justement, ça lui apprend à être... À tout accepter de là d'où
possible,
il vient.
On a vu ça 10 000 fois.
Ah,
quoi.
Donc voilà, donc t'es quand même d'accord que ça y est quand même. Mais après qu'on l'ait vu 10 000 fois, je suis d'accord, parce que c'est vrai
c'était
que...
C'était déjà dans la Bible quand Jésus va
mais
dans le désert.
C'est ça le problème,
et
c'est ça le truc, c'est qu'en
mont,
fait, je suis d'accord, c'est une autre... Mais la Bible, c'est aussi le mythe du héros, quoi, c'est ouais. pareil. C'est,
après, on...
Death and Resurrection of King Arthur, c'est pareil, quoi.
C'est vrai qu'on... Moi, je serais assez d'accord avec Baptiste dans le sens où on ne peut pas dire que le fait qu'il vienne de la rue, qu'il vienne du prolétariat... On sent pas que ça va l'aider dans son éducation de roi à justement faire régner justice et égalité pour le peuple.
La fin, c'est totalement ça. Quand ils sont avec la table ronde qui est en train de se faire adouber par des potes qui sont des roturiers, tu vois que là, on sort
c'est vrai.
On va sortir totalement de la manière aristocratique, en gros, de faire les choses. Il le dit même. Et sa première relation diplomatique avec les Vikings, c'est purement une relation diplomatique de bandit, justement, mm-hmm. au lieu d'être un truc de roi. C'est pile ça, justement.
Quelle,
c'est vrai,
quelle
c'est vrai.
Leçon il apprend dans le film ? Explique-moi quelle leçon il apprend.
Putain, mais je l'ai déjà dit. Je te le dire, de ne pas faire fi de son. De ne pas se voiler la face, en plus.
Non, bah putain, 2h30 pour ça, quoi.
Mais non, bah, attends, il n'y a pas que ça aussi. Il y a le fait qu'il triomphe, etc.
Non,
mais comme d'habitude.
Qui débarque comme ça. Non mais je peux pas spoiler, mais à un moment t'as un serpent géant qui débarque comme ça, qui nique tout le monde, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais pourquoi la mage elle a créé ça, pourquoi elle l'a pas créé avant, tu sais pas pourquoi. Pourquoi elle a pas essayé de tuer le roi avant avec son serpent géant, tu sais pas pourquoi non
mais
plus.
Ils ont essayé, mais ils sont ratés.
C'est une
notamment.
Blague ce film.
Ils ont essayé avec des flèches, ils sont ratés.
Ça c'est Gritchy qui l'a dit dans ton podcast.
Mais non, mais ils ont essayé avec des flèches, ils l'ont raté, c'était dans le film. C'était pas si facile.
Ils ont essayé
avec
des flèches, mais ils auraient pu essayer avec un mammouth géant, avec j'en sais rien moi, une tortue géante, avec pourquoi avoir à attendre la fin du film, risquer la vie de tout le monde. Et la mage d'un seul coup dit, ah bah tiens, si j'essayais de ma carte numéro 3, le serpent géant qui nique tout le monde.
Je la comprends. Mais... pour défendre le film, il vaut mieux utiliser ta carte quand t'as aussi ta carte Excalibur avec quand même. Ça marche mieux. Mais... non, mais après, je suis d'accord. Bon, si on veut rentrer dans le truc, on rentre dans la franchise dans le sens où il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien il reste de mages. On sait qu'ils ont été purgés ou des choses comme ça. Donc, et c'est des choses où t'as vraiment l'impression qu'on te fait un petit peu des clins d'œil parce que on va y répondre dans le numéro 2.
Mais il y aura
parce qu'on a vu Merlin, mais on ne sait pas. Et effectivement,
on a vu Merlin.
Rapidement, on voit ses bras.
D'accord.
qui forgent le.
Ah oui,
Excalibur.
Tout à fait.
Mais il y a des choses effectivement qui restent un peu sans réponse. Je dirais pas par contre que c'est incohérent. Je crois que la franchise avait prévu 6 films sur ça.
Vrai.
Ouais. Et vu comment il se chie totalement aux États-Unis, le second truc, outre le podcast que j'ai écouté avec Guy Ritchie, j'ai vu qu'il se prenait des critiques négatives de partout. Et contrairement à toi, Baptiste, moi je ne vois pas pourquoi il s'en prendrait autant. Plein la gueule que ça. Parce que vraiment, par contre, je trouve que c'est un film très correct, qui m'a totalement diverti. Musique magnifique.
On dirait enfin... Merlin sur Direct 8 quand t'as rien à branler le
dimanche
et
que
tu tombes sur Direct 8.
Mais non, mais le production design de tout ce film n'est pas
Mortal
du Merlin.
Kombat, c'est ça le design.
Moi je le compare dans ma tête à la Grande Muraille et à Alien Covenant et du coup je me dis que oui, c'est plutôt un bon film en comparaison.
Oui, voilà. Exactement. Mais moi j'espère qu'il va connaître le destin de Warcraft qui n'a pas marché aux États-Unis ou mais beaucoup marché en Europe, enfin, et surtout en Chine. Et j'espère que ce film va beaucoup marcher en Chine pour que, quand même, il puisse faire une suite, tu vois. Sachant que moi, effectivement, si je le compare à Warcraft, je préfère ce film à Warcraft, tu vois. Mais je suis conscient que, voilà, ces défauts sont présents, mais gros moment de plaisir, quand même, au cinéma, avec le bonus de me dire que en 3D, et du coup, je lui mets le virgule 5 en plus, parce qu'en 3D, je pense que ça doit être vraiment meilleur, tout simplement.
Est-ce qu'on peut évoquer les personnages féminins dans ce film ?
Allons-y.
Parce qu'il y a, un personnage de femme forte, pour le coup, qui est la mage, donc, qui sauve la mise, en fait, à tout le monde à plusieurs reprises. Hein.
Ouais.
Clairement, si elle n'était pas là, je crois que...
Qui joue par, du coup, une Française, là, dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure.
Je crois que, clairement, si elle n'était pas là, les autres personnages ne pourraient pas s'en sortir. Hein, et pourraient pas...
Tu veux dire dans l'histoire, oui.
Ah oui, oui. C'est un peu la clé, en fait. Et après, il y a le personnage donc des sirènes, une sorte de démon du mal, une tentatrice, en fait.
Ursula dans Walt Disney.
Ouais.
Et puis après, ben, ce sont juste des princesses qui sont parquées dans leur chambre avec des robes très colorées et qui n'ont pas leur mot à dire. Et qui sont juste là pour être, instrumentalisées, en fait.
Et les putes aussi.
Ah, c'est vrai, oui. qu'on doit protéger.
Oui.
Que l'on doit protéger des agressions.
Des agressions vikings, etc.
Et
après, voilà. Soyons clairs, moi, je vais jamais adresser le sexisme d'un film situé dans une période médiévale.
Ah oui, tout à fait. J'ai oublié de le dire. Vu la période de la légende arthurienne, ça se justifie.
Voilà.
Oui, donc, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a un acteur qui est noir? Pourquoi il y a un acteur chinois? Est-ce qu'à l'époque, il y avait vraiment... je suis pas sûr qu'il y avait...
Non, mais après, c'est faux. Hein. Enfin, je veux dire, ça, on dit à l'époque, il n'y avait pas non plus d'éléphants de 400 mètres de haut. Mais... Du coup, on est dans un autre monde, d'accord, ok. Alors après, c'est intéressant on est dans un autre monde où on garde le sexisme,
mais
on garde
non.
pas de racisme. Donc
bah,
c'est assez drôle.
Bah non, mais ça dit quelque chose déjà de notre société.
Oui, qu'on préfère garder. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que quitte à refondre tout le concept de la chose médiévale, quand est-ce que t'as vu ne serait-ce qu'un film de SF? Ou là, tout à l'heure même, on avait des choses à redire à Star Wars en termes de sexisme. Donc, quand est-ce que t'as vu un film de SF ou un film tout court où la femme était l'égale de l'homme? À part Alien 1, peut-être.
Voilà. Alien 2 aussi.
Et Alien 2, oui, bien sûr. Enfin,
avec le lieutenant.
Enfin, on va dire Alien en général, ouais. Tu vois.
Le personnage principal de Premier Contact, c'est une femme.
Oui, c'est vrai.
Oui, effectivement. Bon, non, mais sûrement, on va trouver plusieurs films où... Quand tu as une protagoniste femme, tu ne vas pas voir, en tout cas beaucoup moins de sexisme. Mais ça, c'est intéressant d'avoir un film où une femme n'est pas la protagoniste, mais quand même, il n'y a pas de sexisme, tu vois.
Ouais.
Qu'en fait, on va toujours se servir de la femme comme la personne à sauver, etc.
Faire valoir, ouais.
Ouais. Intéressant concept.
Après, moi, il y a aussi ce concept-là de vouloir absolument. Et après, je comprends qu'il ne faut pas invisibiliser les minorités. Je suis le premier à lutter contre ça, mais c'est un épisode de Glee, quoi, ce film. T'as le chinois qui fait du kung-fu, t'as le noir, t'as la blanche, t'as le blanc. C'est un épisode. Il manquait juste l'handicapé sur son fauteuil roulant qui tire à l'arc, quoi, pour que ce soit vraiment. voilà, tous les quotas sont respectés, c'est bon, on aura aucune communauté au cul, tout va bien.
Et même, ça, c'est le système de production américain, quoi. Parce que justement, au contraire, s'ils en avaient pas, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut refaire là un film médiéval? Genre, moi, j'arrive, je dis, mais les gars, j'ai envie de vous faire un nouveau Robin des Bois ou je sais pas quoi. Bon, bah, laissez-moi tranquille, il y aura que des mecs blancs.
Comme à l'époque.
Ouais, voilà. et on va pas faire semblant. Et alors, parce que c'est ça le problème, c'est que même du temps de Kevin Costner, il y avait Morgan Freeman qui jouait le mort.
Qui était
d'ailleurs. Mais en plus, c'était l'une des rares premières fois d'ailleurs où il y avait le concept de on va ramener des gens noirs qui vont jouer les morts à l'époque, et c'est une trop bonne idée, tu vois. Mais c'est intéressant parce que est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un film à gros budget sur une période où on n'est pas censé voir d'autres ethnies que des blancs?
Bah, à Reski, ça marche à condition que la période dont tu parles s'inscrive dans une totale réalité. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire que si, dès l'instant où tu rajoutes de la magie dans
autant
me rajouter des noirs, des chinois, des homos.
Voilà. Mais par contre, laisser les femmes à leur place.
Et par contre, ouais, laisser les femmes à leur place. Alors, non, mais ça montre qu'il y a une priorité dans la lutte pour les réalisateurs, du coup.
Non, mais c'est drôle parce que si je posais la question de quand est-ce que tu as vu un monde fictif dans un film où les femmes étaient les égales des hommes, c'est parce que en fait, il faut vraiment créer ce monde-là aussi. C'est-à-dire que tu comprends que là, on sort du coup tout de suite
de tous nos référents.
C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la filiation entre les rois, bah du coup, il peut y avoir une reine. Tu vois ce que je veux dire? Il faut tout réinventer. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, on dit non, mais en fait.
Mais ça, tu peux pas le faire en 2 heures de film.
Si tu le présentes,
que ce soit le sujet du film, mais.
Si tu présentes tout de manière à ne pas expliquer forcément les choses, tu peux dire non, mais voilà, ça c'est la reine. Et c'est vrai que quitte à refaire un truc de King Arthur, c'est vrai que pourquoi pas avoir eu une Arthura, tu vois? Un truc comme ça.
Arthura, la légende d'Excalibur. C'est nul.
Mais oui. Non, mais ceci dit, oui, je vois totalement le fait qu'on choisit ce qu'on veut bien avoir. Mmh. Mais disons qu'ils vont plus avoir de problèmes avec les assauts ethniques que sexistes, en fait.
Regarde Dune. Il l'avait fait, hein. En 2h30 de film, il crée un univers totalement nouveau où t'as toute une civilisation qui est entièrement matriarcale, avec les mères, tu sais.
Tout à fait.
Il le faisait sans être plus explicatif que ça, quoi.
Oui, mais oui.
Et ça marchait.
Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu présentes tout comme ça se passerait. Mais ça veut dire penser à un autre monde déjà.
Non,
mais ça veut dire que aussi, effectivement, c'est peut-être pas ce que t'as envie de faire à la base. Bon, là, c'est vrai qu'on va loin quand même pour ce film King Arthur, mais bon. D'ailleurs, on n'a même pas donné nos miams. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire en plus sur le roi Arthur?
Non, bah vas-y.
Vraiment, les musiques géniales quand même.
Musique géniale.
J'allais souligner ça.
Un travail sur le son.
Et super, je suis d'accord.
Énorme. Mais vraiment, c'est. Bon, on l'a vu en Dolby Atmos, mais vraiment, le son était excellent et vraiment, c'est travaillé. C'est-à-dire que. On l'entend respirer, haleter, dès qu'il a fait un effort ou des choses comme ça. On entend la Excalibur traîner sur le sol. Et c'est vraiment très, très travaillé pour justement te donner un effet
d'immersion.
Mais aussi, il y a un effort qui est fait, il me semble, dans la narration aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as cette espèce d'impression d'être isolé, comme Arthur parfois peut être isolé avec ses décisions à prendre. Souvent, on entend moins l'extérieur, en fait.
Je voyais plus ça comme une volonté de rendre, à travers les sons, l'âpreté du monde, de ce monde-là, tu veux.
Aussi,
avec le côté agressif, tout est agressif à l'époque. Ouais. Tu risques de te faire poignarder dans un coin de rue, même les sons te pénètrent, tu vois.
Ouais. Ils sont sourds et.
Non, on pourrait juste souligner la présence d'Eric Bana, qui joue dans Uther Pendragon,
le père.
Très poétique ce moment, d'ailleurs, où il se transforme en roche.
Ouais.
Je trouvais ça très poétique.
J'adore Eric Bana en roi, en fait.
Ça lui va bien. Hein.
Ouais, ça lui va très bien. Et pareil, d'ailleurs, Jude Law, ça lui va très très bien de porter des couronnes, des choses comme ça, depuis The Young Pope, là.
Des armures aussi.
Jude Law, ça lui va très très bien de porter des couronnes.
Je pense qu'il devrait faire que ça.
Il est drôle, cette phrase.
Voilà. Moi, je mettrais 3,5 miam.
Pour n'importe quoi.
Si. gros divertissement. J'avoue que franchement, si j'avais une télé 4K aussi, je me serais acheté avec plaisir le Blu-ray pour le regarder chez WAM en 3D. parce que je suis pas assez riche pour l'acheter.
Wow, t'es dentiste. Tu fais 2-3 prothèses et puis voilà.
Voilà, bien sûr, c'est aussi simple que ça.
Je vais mettre 3,25 miam.
C'est moi ou tu t'avais dit que t'as mis, tu mettais 4 miam?
Ah non, non, j'ai dit, la dernière fois j'ai dit 3,5.
Ah oui, d'accord. Et puis, tu viens d'enlever 0,25.
Puis j'enlève 0,25 parce que le scénario est oubliable et parce que... C'est, voilà, c'est un bon divertissement.
Moi je mets 2 miam. Et c'est uniquement pour les dorsaux de Charlie Hunnam.
C'est un miam par dorsal ou...
Ouais, exactement. Exactement. Et puis parce que Guerrici, tu sens qu'il a vraiment voulu rentabiliser la musculature de son acteur. C'est-à-dire que dès qu'il peut enlever le t-shirt, il enlève le t-shirt. Hein. Après, c'est appréciable.
Ça, c'est vrai, ça aussi. Putain, c'est ce genre de scène-là, comme ça, dans le cinéma, je veux dire, à un certain moment, ça suffit. Les Marvel, il n'y a que ça tout le temps. Les gars, ils se sentent obligés de changer de t-shirt, tu sais, en plein milieu de l'apocalypse. Sauf que le corps, ça vend. Hein. Que ce soit pour les meufs ou pour les mecs, ça vend.
Ben non, c'est la différence entre prendre une photo d'un vrai McDo et prendre une photo d'un McDo qui a été
dopé,
vernis,
avec du plastique. Ouais.
Avec du plastique, tout ça, voilà. Lequel t'as envie le plus de côtoyer, de manger, ben...
De côtoyer. Baptiste, il a des McDo à côté de lui qui caressent pendant qu'il regarde la télé.
Ben oui.
Je
Moi, je préfère, des, que, je préfère caresser Mac. Celui de la photo que celui que je trouve en vrai au McDo du coin.
Intéressant de se dire que c'est assez empreint de, ouais, de problèmes aussi des studios américains, quoi. Même si t'es un auteur, c'est quand même... Guy Ritchie, c'est un auteur. Enfin, tu le reconnais. Tu reconnais sa patte. Enfin, on peut pas dire que c'est un mec qui peut être substitué par n'importe qui pour faire le même film. Forcément, le film aurait totalement été... était différent, donc il y a au moins ce bonus là, mais malgré ça, tu sens qu'il y a des choses où il a dû dire, ouais, bon, ok, d'accord, bien sûr, ouais, on va montrer ses biceps, ok, on va faire ça, on va mettre des femmes à sauver.
C'est sa patte, mais il se répète tout à l'heure, tu disais parler de ses blagues, mais parfois, t'as envie de lui dire, papa, t'as déjà raconté cette blague depuis que je suis gamin, au moins 13 fois, quoi.
Je suis d'accord. Et c'est pour ça que ça, pour le coup, je l'ai dit, j'ai pas spécialement apprécié ces zones-là. Enfin, je parle juste de quand ce sont des dialogues.
Avec les flashbacks très rapides, tout ça.
Les, voilà, quand
on l'a vu dans Sherlock Holmes, on l'a vu plein
de fois. Enfin, c'est surtout, oui, voilà, des trucs à la Snatch ou la Arnaquerie mais botanique. Et c'est vrai qu'en termes d'inventivité, autant dans Sherlock Holmes, il y avait des trucs nouveaux, il y avait des trucs intéressants, genre, tu sais, quand il... Là, je dirais que le truc intéressant, ça va être les montages, parce que moi, j'ai beaucoup aimé les montages. Mais bon, ça reste un truc classique, quoi, le montage. Il n'y a pas eu non plus d'effort ouf de mise en scène. C'est pour ça que... Bon, c'est pour ça que c'est pas non plus un très bon film, ni un très bon Guy Ritchie, mais voilà.
Un petit côté Tortue Ninja dans l'armée du méchant, donc les culottes noires qui sont des sortes de fantassins masqués.
Ouais.
Ça fait penser un peu à tous ces figurants anonymes dans les Tortues Ninja, voilà, qui se font dérouiller par les tortues. Ça. Ça pourrait faire penser aussi à...
Alors, justement...
Au Power Rangers.
Voilà,
Au méchant de Power
aussi
Rangers.
Dans le truc de ça suffit aussi d'avoir des gens qui n'ont plus de visage, des Stormtroopers à tuer comme ça sans avoir de vrais gens, en fait, derrière. Et d'ailleurs, bon, juste rapidement pour parler des scènes avec d'utilisation d'Excalibur, trop de 3D pour la seconde, notamment. Celle qui, quand il contrôle vraiment ses pouvoirs avec Excalibur... on voit qu'il est fait en 3D et ça je déteste par contre. C'est-à-dire que la scène, je la trouve plutôt bien et toi t'étais trop fan PJ, je te voyais à côté, t'étais en train de faire trop bien. Et prenais du plaisir à voir la scène, mais
on aurait
c'était Matrix Révolution, c'était Matrix Reloaded, tu sais. Oui. Tu voyais que c'était une image de synthèse et je suis désolé mais ça coûtait vraiment rien. De le filmer juste tout seul devant un fond vert à faire n'importe quoi et tu l'incrustais. D'accord. Tous les autres, tu peux les mettre en image de synthèse, surtout que tous les autres n'ont pas de visage, justement, bien comme sûr. Tu le disais. Mais lui, non, moi, je veux voir un vrai gars. Et D'accord. ça, c'était pas le cas. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, bon, cette espèce d'idée de force incroyable avec Excalibur, tu sais, bah justement, voilà, c'était côté Matrix, côté Man of Steel. Il y a la kryptonienne Ursa qui faisait ça. D'ailleurs, c'était beaucoup plus maîtrisé dans Man of Steel. Je trouve, quand elle se battait à la super vitesse. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on revoit pas ça dans Batman versus Superman, dans tout ce que tu veux, cette scène, c'était génial. Pourquoi est-ce qu'on voit pas des gens qui se battent comme Son Goku se battrait, tu vois? Non, mais c'est vrai. Le mec, il a la super vitesse et la super force, et à la place, ils font rien dans les films. Bref, voilà. Voilà.
hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Brother dear, let my bed be made bright field, bright the woody nightshade.
Est-ce que vous avez vu d'autres films dernièrement dont vous voulez parler? Je pense qu'on a tous les trois vu Alien Covenant.
Voilà.
Donc on va enfin en parler. Ça va? T'es content? Film de Ridley Scott qui était la suite donc de Prometheus. Ridley Scott qui est un peu torpillé aussi dans la presse le Alien 5 qui devait être fait de Neil Blomkamp,
ouais,
avec Sigourney Weaver et Michael Biehn.
Quel dommage.
Et genre il est un peu torpillé en disant oui mais il n'y avait jamais eu plus de 10 pages de faits, etc., etc. Mais j'avais plus l'impression qu'il disait ça pour attaquer ou pour défendre le fait que ce soit plus Alien Covenant qui soit sorti avant, tu vois, au lieu juste de parler de son film pour en faire la promo et d'arrêter de, tu vois, d'abattre une autre idée de film. Surtout que bon, perso, Prometheus, j'ai... Voilà. C'est-à-dire que même si au niveau de la mise en scène, c'était très beau, assez grandiose, l'histoire elle-même, elle était inadmissible. Ouais. C'est-à-dire que là, en termes de cohérence de tout ce qui se passait, c'était pas possible. Et pour moi, Alien Covenant, c'était la même chose sans le grandiose de la mise en scène. C'est-à-dire pas bien. Je sais pas pour vous, mais moi, je mettrais, on va dire, 2 miams.
Ce qui est déjà pas mal.
Ouais, ce qui est pas mal, parce que quand même, je révère
l'univers alien,
le fait que ça cruisait. Il y avait quand même des pistes intéressantes. Je vous laisse dire vos miams, mais ensuite, on va peut-être parler directement en full spoiler de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de Alien Covenant?
Déjà, le problème, c'est qu'il y a trop de personnages qui décident d'aller aux toilettes ou d'aller prendre des douches en situation de danger. Et du coup, on se trouve un peu dans un film d'horreur de série B,
de base, ouais.
On s'attend pas trop à ça, en fait. On s'attend à des réactions plus cohérentes de la part des personnages. Donc ça, c'est un premier problème. Et ensuite, je dirais que il y a comme un épuisement de la franchise dans le sens où on retrouve des situations qui étaient déjà dans les Aliens précédents. Donc on peut spoiler tout de suite.
Non.
D'accord.
Mais ensuite on...
Ok. Donc voilà, il y a des choses qu'on a vues et revues et il y a pas de nouveauté, ça peine à se renouveler. Du coup, je dirais 1,5 moi aussi. Ouais.
Ok. Baptiste.
Écoute, moi je rejoins l'avis de Pêche dans l'idée d'un épuisement total de cette franchise. Je donne 2-3 exemples. Le coup de la tempête qui empêche les communications, déjà vu. Le coup de tu viens de te faire agresser par un monstre, t'as autre chose à faire que d'aller prendre une douche, quoi. Non mais c'est vrai, c'est juste insupportable. À quel moment le scénariste se dit là mon scénar est plausible et les gens vont me suivre? Non, c'est pas plausible du tout, quoi.
C'est vrai que le gros truc, c'est que au final ce film là Alien Covenant, c'est devenu un... déjà c'est Alien. Enfin, c'est comme Alien, oui. 1. C'est Alien 1.
On arrive sur une planète, on refait Alien 1, voilà.
Mais avec un peu plus de gens. Et voilà, on change un peu à peu près le contexte, mais à peine. Et c'est plus un genre un slasher movie, mais sans en être un vraiment. Dans le sens où en fait, tu t'assois et tu attends que les gens se fassent tuer. Et c'est tout. Et c'est ça le truc le plus important aussi, c'est qu'il n'y a aucune... C'est-à-dire que moi, un slasher movie, il n'y a pas de souci. Moi, je peux m'asseoir devant un slasher movie.
Moi, j'adore.
Mais qu'est-ce qu'il me faut pour un slasher movie? Il me faut des kills superbes. Il me faut fais-moi rire, fais-moi peur avec des... Fais-moi des gars qui sont, je sais pas, crochetés et envoyés en l'air par l'arme du méchant. Je sais pas, quelque chose de nouveau, en tout cas. Là, c'est un alien qui tue comme d'habitude, comme un alien. C'est-à-dire, il arrive, il te mange, il part, il te mange, et voilà, voilà, bon, bah, ok, d'accord. Au bout d'un moment, il va me falloir quand même me faire ressentir quelque chose, quand même, dans ton film. C'est-à-dire que, je sais pas pour vous, mais moi, les personnages, comme assez rapidement, on se rend compte aussi qu'ils vont tous mourir, on n'a pas trop le temps de s'attacher, quoi.
Il n'y a pas d'enjeu.
Combien de miam tu... Est-ce que... Dis-moi, pardon, je t'ai interrompu en plein milieu, mais tu peux continuer à parler du coup et nous donner tes miams aussi avant qu'on rentre et qu'on désosse le film en entier.
Je donne un miam pour les effets spéciaux qui sont quand même pas mal. Et parce qu'on voit beaucoup la bête quand on va voir un alien, on a aussi envie de voir la bête. Là, il y en a plusieurs, mais un miam parce que le scénario est nullissime, vraiment. Je dis, c'est une redite de Alien 1. Je ne comprends pas. Il y a des producteurs qui devraient être là pour dire, écoutez, ça on l'a déjà vu, ça, faut innover, faut donner de nouvelles idées, faut qu'on soit innovant, faut offrir quelque chose de nouveau aux gens. Et personne, j'ai l'impression que personne n'a fait ce boulot-là. Voilà.
Mais je sais pas si les gens veulent faire ce boulot-là. Au contraire, ils préfèrent jouer la sécurité.
Tout à fait. C'est-à-dire donner du déjà connu aux gens pour.
Non,
pour
c'est-à-dire que les gens se disent plutôt, les gars, on sait que ça marche, on va pas commencer à faire autre chose.
Ben oui, ça veut dire quoi? C'est la mort de l'imaginaire.
Et oui, mais c'est pas eux qui sont les artistes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ces décisionnaires-là, après, tu sais, c'est un peu non nuancé de parler de ça comme ça, mais bon.
Ridley Scott, c'est un vieil homme qui se fait dessus, et là, il se fait dessus pour la fois de trop.
Quoi. J'avoue que... Non, mais en fait, je me rappelle... Je vais diminuer ma note, parce que je crois que je me rappelle d'une discussion qu'après, on a eu... Après la séance avec PJ, je m'étais énervé, en fait, contre le film. Je crois que c'est un miam. Je vais mettre un miam, parce que je crois que je vais essayer de me réénerver un petit peu, parce que vous allez voir que ce film, c'est quand même... Si tu le décomposes bien, c'est quand même vraiment nul, quoi.
Oui.
Ok, donc à partir de maintenant, on va, voilà, du coup, un miam, 1,5. Donc et un miam, quoi.
La première chose à décomposer.
Alors, spoiler, partie spoiler. Ouais, alors n'écoutez plus Alien, enfin, même écoutez quand même Alien Covenant, parce que n'allez pas le voir.
La première chose qu'il faut décomposer, parce que c'est ridicule, c'est le twist. Le twist de fin.
Ah, mais tellement.
Qu'on voit venir à 6000 km. Qui veut que c'est le mauvais androïde qui est monté à bord, quoi, tout simplement. Ouais. Et ça, mais c'est en fait, je pense que c'est un problème de mise en scène, mais à aucun moment, on a vraiment de doute.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on nous cache la scène de combat entre les deux androïdes, la fin de la scène de combat. Donc, on sait qu'il veut nous donner le doute. Ok, l'androïde monte. Et on sait que l'androïde nouvelle génération cicatrise tout seul. Or, lui, il a une cicatrice. Mais on sait que c'est pas lui. Terminé. D'ailleurs, entre parenthèses, si nous, on le sait en tant que spectateur, je sais pas pourquoi une putain de meuf d'un équipage qui a un androïde à bord et qui est censé quand même connaître son androïde... Enfin, bon, admettons qu'elle connaisse pas, mais bon, elle sait qu'il est censé quand même se réparer tout seul.
D'autant plus que sa vie est en jeu. Et quand ta vie est en jeu... C'est le genre de détails que tu laisses pas de côté, quoi. Pas un seul instant. Tu le fais monter à bord, tu t'assures, quitte à le mettre à poil s'il faut, surtout que c'est Michael Fassbender. Quitte à être sûr et certain que tu t'es pas trompé.
Non, mais
quoi.
Mec, mais dans le doute, je lui mets une balle dans la tête.
Ah bah remarque,
mec,
oui.
si je doute, c'est pas grave, j'ai un grippin en moins.
Oui,
c'est pas grave, on a raté un androïde. C'est pareil, quoi, tu vois.
T'as raison.
Et le truc.
Et on pourrait continuer en disant que le capitaine de l'expédition est quand même stupide au point de mettre la tête au-dessus d'un œuf extraterrestre, parce que qui le lui conseille? Une personne qu'il suspecte d'avoir effectué
de connivence avec les aliens.
Voilà.
Voilà, en tout cas d'avoir voulu communiquer. Il y avait des trucs intéressants sur ce personnage, parce que ce personnage... enfin, en tout cas, j'avais l'impression qu'ils allaient... que ce film allait dire des choses intéressantes sur la religion, etc.
Non.
Parce que le capitaine est quelqu'un qui croit en Dieu, et tout de suite on adresse ce problème, entre guillemets, du fait que ce soit quelqu'un qui ait la foi, et même quand les choses vont mal, à un moment la protagoniste se tourne vers lui et lui dit « on va avoir besoin de votre foi ». En gros, je me suis dit à un certain moment, ça va être une analyse de ce qui n'est pas raisonné, mais qui construit en nous cet espoir fou que tout va aller mieux et qui, au final, peut te motiver quand même à survivre, etc. Et pas du tout. Parce que déjà, ce personnage, il meurt 4 secondes plus tard après cette scène. Et voilà. donc, je sais pas. En fait, à chaque fois, ça commence avec des pistes intéressantes. Ça les détruit juste après, et c'est pareil pour la meilleure scène, je pense, du film, c'est la discussion qu'il y a entre les deux androïdes, où, pour moi, voilà, on a le...
Attends, c'est la meilleure scène pour toi?
Ouais, c'est... Ouais.
Avec la flûte?
Non, après, quand il parle un peu après la flûte. Pas le truc de la symphonie, mais quand
Ça, c'est un peu casse-gueule, hein, la scène de la flûte.
Ouais, enfin, il y a des trucs intéressants, même si c'est peut-être un peu grotesque pour la flûte, mais quand il parle, quand il discute de. Après, il y a toute cette discussion du fait qu'ils sont eux-mêmes la création d'une création. Et donc, est-ce que ça n'ouvre pas la possibilité pour eux aussi d'être des créateurs ? Il y a des questionnements comme ça qui sont pas mal.
Oui, ça, je suis d'accord.
Mais en fait, c'est quand même bancal par rapport aux réelles actions de chaque personnage. On ne sait pas trop pourquoi David, d'un coup, il s'est dit qu'il allait faire des expériences sur...
Non, en plus, je suis désolé, mais si on part de la base de Prometheus, qu'est-ce que cette conne de lieutenant, comment elle s'appelle là, Naomi Rapace,
Shaw, hein. Elizabeth Shaw.
Le docteur,
pourquoi elle le répare?
Elizabeth Shaw, pourquoi elle le répare? Il a essayé de tuer tout le monde dans le premier épisode, elle le répare, qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'il est réparé, il la bute?
Alors en fait, c'est vrai
qu'elle mérite de mourir, je suis désolé.
Le gros souci de ce film, c'est que c'est la suite de Prometheus. Et que Prometheus, je t'avoue que je ne comprends pas du tout le comportement de l'androïde dans Prometheus. Pour moi, c'est genre un pur bug, quoi. Sauf qu'en fait, c'est jamais adressé dans le Prometheus. On sait pas si c'est un bug vraiment ou. Genre, au moins, si j'avais vu une scène où il y aurait marqué Critical Error et qu'il aurait commencé à mettre des gouttes d'aliens dans des verres d'eau et à toucher à des boutons partout, j'aurais fait ah d'accord, ça me semble normal parce qu'il est cassé. Mais non, en fait, ils te font passer cet androïde pour quelqu'un de totalement stable et qui fait exactement ce qu'il a été programmé pour faire, sauf que en fait il n'est pas du tout été programmé pour faire de la merde, donc je vois pas du tout en fait ce qui se passe.
Puis si tu réfléchis, son obsession c'est de se sentir existant en créant, parce qu'il part du principe que la vraie existence, c'est-à-dire il ne peut être au monde que s'il est à l'image créateur, de ses créateurs, ouais, un créateur lui-même. Sauf qu'il ne crée rien, il utilise quelque chose qui existe déjà. C'est par exemple si demain je mets dans ton ventre une larve et qu'elle se transforme en papillon, c'est pas moi qui ai créé le papillon, la larve elle existait déjà, tu vois.
Oui, en fait, il fait genre un peu de plus ou moins de l'eugénisme, de c'est-à-dire en fait, il est plus botaniste qu'autre chose dans le sens
oui,
où en
voilà,
gros,
il cultive quelque chose qui existe déjà,
oui, c'est
voilà,
du bricolage.
Et donc pour un android, c'est le genre d'erreur qu'un android ne peut pas faire, il sait ce qu'est créé, pas créé, point. Et là, clairement, ils créent pas puisque ça existe.
Et alors ça aussi, j'ai pas compris parce qu'à un moment, ils sous-entendent que comme il fait une erreur sur le poème Ozymandias, il dit que c'est Byron qui l'a écrit alors que c'est Shelley. Et du coup, je comprends pas parce que est-ce qu'ils essaient de nous dire que du coup, voilà, il est vraiment réellement cassé puisque il se souvient pas de ça.
J'ai pas compris ce passage aussi. Un android ne devrait pas faire d'erreur.
Faillible, oui. Ben oui, mais je comprends pas comment
un
ça se fait. Comment
ne peut
ça
pas
se
faire
qu'il soit faillible,
sur ce genre de sujet-là, quoi.
Alors est-ce qu'il serait pas faillible puisque justement il est tellement, il est vraiment devenu humain
genre. Ouais, genre sans enfin
conscient.
Je vois pas pourquoi en fait un android il a accès à ces terabits de trucs, quoi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il lit pas le bon nom à la fin du poème, quoi.
Bien sûr.
Je pense que ça va trop vite là aussi pour qu'on puisse extrapoler une vraie symbolique du truc. C'est-à-dire qu'en fait c'est ça le problème avec ce film, c'est que il y a des pistes de symbolique qui peuvent être très profondes et moi j'adore ça, comme je viens de le dire pour le roi Arthur, tu vois. Mais comme c'est à tout moment il y a des à-coups parce que c'est pas cohérent et ça continue pas dans le bon suivi en fait à chaque fois. Et oui, et c'est ultra plein d'artifices scénaristiques parce que
oui,
le pire c'est que tu peux garder tes artifices scénaristiques, mais mieux les faire. Le truc de la tempête, l'orage qu'il y a à cet endroit-là, ben, je suis désolé les gars, on doit mettre 7 ans pour arriver à notre planète où on doit être colon. On peut rester une semaine, attendre que la tempête se dissipe avant d'y aller, on n'est pas obligé d'y aller maintenant. Je veux dire, qu'est-ce que ça coûte ? Rien du tout. Au contraire, ça rentre même encore plus dans l'histoire du fait d'un équipage qui ne veut pas se rendormir tout de suite après avoir connu une avarie où leur capitaine est mort. C'est un petit peu de temps ensemble, quoi. Pas forcément aller mettre un pied sur une planète qui n'est d'ailleurs à la base pas répertoriée. Moi, la fantasy, je donne beaucoup plus de mou sur la corde. Tu peux faire ce que tu veux, mais quand on rentre dans la SF, c'est qu'il y a une volonté de l'ancrer dans la science.
Bien sûr.
Donc dans des propositions aussi de personnages qui sont censés être cohérents, intelligents. Voilà, on te les présente quand même comme un équipage de gens compétents. c'est quand même les gens qui vont recréer une humanité dans une planète qu'on connaît pas. Donc, mais là, personne ne fait preuve de d'intelligence. Quoi.
Aucun d'entre eux n'agit de manière cohérente face à une menace comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des failles scénaristiques, je suis désolé. En deux minutes, dans Alien 1, si tu veux, l'alien, entre le moment où il jaillissait de Wallace et le moment où il était adulte et commençait à attaquer, il se passait, je crois, un ou deux jours où il le cherchait dans les coursives du vaisseau, tout ça. Il avait le temps de grandir, on voyait même qu'il muait et tout. Là, dans le film, il sort de la poitrine du commandant, qui est dans l'espèce de cave qu'a aménagé David, tu vois. Deux secondes ou deux minutes après, il a sa taille adulte, il attaque les...
Et ça, je comprends pas d'ailleurs, parce que, enfin, on est d'accord, ça sort, ça fait genre littéralement 500 grammes.
Mais oui.
Et c'est... excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il a mangé?
Oui.
Pour avoir cette taille.
Pour se créer de la masse, comme ça.
Tu peux très bien étaler ce qui se passe. Pourquoi t'es obligé de les faire se faire attaquer en 24 heures? Non, tu peux attendre, comme dans Alien 1, deux jours, ok. Il a le temps de, je sais pas, d'aller bouffer des vivres que t'as, ou même un des milliards de colons que t'as dans ton vaisseau, tu vois, qui retrouve des colons qui ont été bouffés et qui se disent, putain, merde, il va grandir, tu vois. Il y a une espèce de paresse dans ce film de ouf. Je comprends pas pourquoi, du coup, c'est ce film-là qui a été produit et pas Alien 5. Moi, je veux voir le Caporal X et Ripley, tu sais.
Moi, je veux trop revoir Sigourney Weaver.
Alors il y a deux événements qui sont symptomatiques de l'épuisement de la franchise quand même. C'est le premier, c'est le fait qu'il se débarrasse d'un alien avec une sorte de grue ou une sorte de machine.
Ouais. Comme dans le 2,
voilà, quelque chose de déjà vu. Et puis il y a ce moment de soulagement au sein du vaisseau à la fin entre les rescapés où ils pensent qu'ils sont tirés d'affaire.
Et en fait non.
Et finalement l'alien est toujours là. Et ça c'est déjà vu aussi dans la série, quoi. Il me semble que c'est déjà le cas, par exemple, dans Alien 4, à la fin, quand ils partent avec le petit vaisseau. Et je me demande même si c'est pas le cas dans le 2. Alors là, j'en appelle à vous.
C'est-à-dire, pardon.
Cette idée d'être soulagé, c'est bon, on s'en est débarrassé.
Oui, dans le 2, ça y est, parce qu'ils croient qu'ils sont... Et en fait, la reine est avec eux.
Voilà.
Donc, et en plus, techniquement, ils sont pas tout seuls, parce qu'en plus, dans le 3, soi-disant, ils sont fait attaquer, finalement, par un, je crois. Mais bon.
Et puis on en a pas parlé, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que la peur n'est plus là, en fait, puisque bon, je pense que c'est le 1 qui est considéré vraiment comme celui qui étant le plus effrayant. Mais par exemple, je pense à Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet, il y a cette horreur par rapport aux manipulations génétiques, on est mal à l'aise parce qu'il y a un hybride alien humain, enfin, y a vraiment quelque chose qui relève de l'horreur. Et bon, là, on est juste devant un slasher sans horreur, quoi.
Je t'avais dit, ouais, il n'y a qu'une scène à peu près intéressante en termes de mise en scène de comment on se fait attaquer. C'était quand ils étaient dans l'herbe, qu'ils se faisaient attaquer de toutes parts dans le champ de blé. Et ça me rappelait quelque chose, mais je ne savais pas. Mais je me disais, ah, ça, c'était pas mal, tu vois, par rapport à toutes les scènes où lambda, à base de je vois une queue passer et tout le monde se fait embrocher, truc de base partout dans toutes les autres scènes. Et ça m'a rappelé, bah, du coup, le monde perdu, Jurassic Park, le monde perdu, où il y avait
les raptors
qui venaient et qui brisaient les épis de blé, comme ça. Du coup, il y a littéralement vraiment rien d'original. Je pensais pourtant que ça allait être un bon film parce que le générique, tout début, il y avait donc le mec Wayland de Wayland Yutani qui discutait avec David, l'androïde. Il y a cette discussion sur la création, etc.
Il y a une vraie tension dans cette scène.
Et je trouve qu'il y a non seulement une tension, il y a du charisme des deux côtés, il y a des propos intéressants, mais en plus, il y a un jeu qui est fait avec le générique où apparaissent les noms des gens qui ont donc contribué à faire le film, donc Ridley Scott, etc. Et je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir la discussion sur la création avec les créateurs du film qui apparaissent petit à petit et qui étaient vraiment bien mesurés. Je pense que ça a vraiment été fait exprès. Je me suis dit, putain, je pense que au moins on va avoir l'espèce de volonté de profondeur de Prometheus, parce qu'il y avait ça aussi dans le truc grandiose de Prometheus avec la race des créateurs là. Il y avait ce truc de vouloir tacler des sujets très très importants, et ici dans ce film très très rapidement on est arrivé au niveau de Alien versus Predator, vraiment.
Exactement. Oui, c'est vrai, mais c'est exactement ça. Ou de Predators, je sais pas si tu l'avais vu.
Je l'ai vu. Avec, je préfère mille fois Predators à Parce qu'au moins c'est fun, tu vois. Ouais, Predators, oui, c'est jamais fun. Pris au sérieux.
C'est vrai.
Predators, c'était en mode genre, et si on prenait des tueurs humains sur une planète et pour s'amuser, qui est totalement cohérent avec ce que ferait un Predator.
Bien sûr.
Qui n'est qu'un chasseur, tu vois.
Nous, il nous prendrait pas, nous.
Oui, non, nous, de la cécité.
Tant mieux.
Genre, peut-être pour les bébés prédateurs pour qu'ils s'entraînent.
Même pas. Par contre, si les auditeurs aiment la flûte à bec, vous pouvez aller voir si vous avez des bons souvenirs de flûte à bec au collège.
Si tu vois ce que je veux dire.
Si vous êtes fan de Pipo, vous pouvez y aller. Hein.
Vous pouvez aller voir Alien Covenant. Il y a une superbe scène de flûte à bec.
Pas du tout.
Et notamment de composition, d'improvisation à la flûte à bec.
Hyper homoérotique.
Et ça, si, je sais même pas si c'est une vraie scène de composition. Est-ce qu'il a composé dans cette scène? On n'est pas sûr de ce qui se passe en fait. On n'est jamais sûr de ce qui se passe.
Mais le son de la flûte à bec est magnifique, vraiment, ça vaut le. Ça vaut le détour.
N'importe quoi.
Tout est drôle là. Non mais il y a tellement d'incohérences quand le vaisseau arrive qui tue tout le monde et que tout le monde est là à accueillir le vaisseau alors que bon, devrais te méfier quand même.
Là, je suis désolé, au flashback avec les créateurs. Ok, on est en train de parler des gens qui ont créé les humains.
Ouais.
Plus que ça, ils ont créé peut-être genre toute la vie dans la galaxie.
Ouais.
Et ils reçoivent un vaisseau à eux qui est du coup probablement qui ne répondait plus
depuis des années.
Tu vas me dire que les gars ne sont pas capables de les scanner quand ils arrivent
de chercher
pour se dire oula dedans il y a un humain, donc déjà c'est même pas notre race. Plus un robot, encore moins notre race. Envoyez lui un petit missile nucléaire s'il vous plaît. Surtout que je viens d'y penser, ce vaisseau là vient de la planète où ils testaient leurs armes.
Et donc ils savaient qu'il était.
Donc si tu veux, moyen, oui, que ce soit grave, tu vois. Je vois pas du tout le projet du truc. Parce que, et surtout qu'ils avaient eu des années, enfin non, pas des années, mais ils ont eu un certain temps avant d'avoir ça, mais voilà. Et entre parenthèses aussi, quand tu trouves un vaisseau alien, il y a tellement de technologies à forager dedans avant de commencer à toucher les choses organiques.
Bien sûr.
Tu sais ce que je veux dire? Genre, ça se trouve, ils ont des moteurs 1000 fois plus puissants que toi. Enfin, en tant que voyageur interstellaire, je penserais à ça avant de me dire, oui, regarde, il y a des vers intéressants avec des œufs cool. Ouais, plus tard, tu vois.
Bien sûr.
Après, si vous aimez les cheveux longs, et les cheveux longs notamment chez les garçons, si vous avez aimé les cheveux longs d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, là, vous aurez un superbe exemple de belle coupe longue avec Michael Fassbender qui ressemble à s'y méprendre à Viggo Mortensen.
Si vous aimez le pipeau, les cheveux longs, allez voir ce film. Ridley Scott, si tu nous écoutes.
Si tu nous encules, c'est ça que c'est.
J'ai eu un lapsus.
Ridley Scott, tu nous encules encore de 14 euros.
C'est ça.
Pour ton film en 3D moisi, là.
Ça a mal se passer. C'était par rapport, tu sais, cette vidéo, tu l'avais vue d'une jeune qui râlait contre Pete Doherty sur Canal Plus, là.
Non.
Elle passait au journal parce qu'elle Pete Doherty avait annulé son concert au dernier moment. Elle a fait une vidéo qui est ultra connue que je te montrerai. Oh, Pete Doherty, si tu nous écoutes, je t'encule. Tu l'as jamais vue? Ah, je te montrerai sur YouTube. Elle est géniale. Elle est très vénère, la nana.
Ah, on n'a pas parlé,
Il manquait cet épisode, il va être sur Alien Covenant.
Bah, tu peux mettre un épisode diptyque.
Je pense, ouais.
Alors, il manquait un décor, a priori, pour Covenant, hein. Il y avait un souci de décor. Donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas utiliser tous les concept art qu'on a fait en préparation du tournage? On les affiche tous dans une salle et ça sera un cabinet des horreurs. Voilà.
Non, mais ok, ok. Non, mais ok. D'où? Ok. D'où? Regarde. Pourquoi ils sont arrivés sur cette planète dans Alien Covenant? Parce qu'ils ont vu qu'il n'y aurait même pas à terraformer la planète, parce qu'il y avait déjà une atmosphère respirable, etc. Ça veut dire que, à la base, la planète où ils devaient aller, ils devaient la terraformer. Donc, ils ne savaient rien sur la planète. Ça se trouve, il y avait effectivement des trucs biologiques, etc., qu'ils allaient découvrir là-bas. Ok? Ça veut dire que normalement ils ont un protocole en place de quarantaine, donc
bah,
il y a des germes, il y a des trucs
bien
comme ça. Et là, ils arrivent sur une planète sous prétexte que il y a des trucs, l'atmosphère, il y a assez d'oxygène, on y va tous sans aucun casque, en mode ah c'est sympa d'être sur une planète. Et quand quelqu'un se fait infecté par un truc, ils savent pas, ils perdent tous leurs moyens. Et d'ailleurs entre parenthèses, il y a quasiment tout l'équipage qui est en bas. Non mais attendez, mais je...
Non, c'est
vous, vous voulez pas envoyer un drone, sérieux?
Bien
vous
sûr.
Vous voulez pas envoyer genre...
non, bah
je sais pas.
T'envoies...
J'avais même pas pensé en fait bah, qu'ils oui. avaient un robot. Mais oui, t'envoies le robot, tu fais... ça va le prélèvement là? Oui, yeah. Oui, bah on va attendre 40 jours qu'avec toi.
Tu fais les analyses pas... du bout du doigt comme
mais
ça?
Oui, mais... Et puis surtout, il n'y a pas besoin de tout faire en même temps. Genre, on est ultra pressé. Genre, oui, vous deux, vous occupez de prendre ces prélèvements là. Nous, on va monter. Mm. Non, non, faux. On reste avec vous pendant que vous faites les prélèvements. Et s'il y a quelque chose qui va pas, ben on sera là pour vous.
Bien sûr.
C'est tout, je sais pas.
Non, non, il y a trop d'incohérences.
Après, peut-être que Weyland Yutani, c'est le Lidl aussi des entreprises spatiales, tu vois. Ils ont des gens sous-formés.
Tellement bien. C'est l'EasyJet des colons,
c'est
tu sais.
C'est drôle, genre, pêche, ça.
Tu vis sur quelle planète, toi? Oula, mais toi, tu vis sur la planète dégueulasse, non? Vous avez colonisé avec genre des bouts de bois. Et à côté, t'as les vrais Air France de la colonisation où ils font ça sérieusement. Ils sont tranquilles.
Non, mais je pense que l'équipage est sous-formé. Ils se pensent astronautes, ils se disent spécialistes, mais c'est dans leur tête, quoi.
Alors, ça aussi, il n'y a pas eu trop d'efforts à vouloir distinguer les rôles de chacun concernant leur spécialité. Rapidement, on sait qu'il y en a une qui est doc, mais c'est tout.
Leur spécialité, c'est d'aller aux toilettes et de prendre des douches, je crois.
Leur spécialité, c'est. En plein milieu d'un truc où, en gros, tu es dans un environnement hostile, tu t'extrais de ton groupe pour aller te doucher.
C'est-à-dire voilà.
Pour reprendre ce que tu disais, Baptiste, en fait, c'est pas que c'est incohérent pour quelqu'un qui est intelligent, c'est aussi incohérent pour quelqu'un qui a peur. C'est pas ce genre de comportement qu'on attend.
Mmh.
Et donc, c'est très, très triste. Je préfère mille fois voir Alien vs Predator 2 qui est en bonne déconnade à base de petites villes où il y a des aliens et des prédateurs et tous les kills sont drôles, tu vois. Donc je préfère mille fois voir ça qu'autre chose. Voilà, tout ce que j'ai à dire. I said my piece.
Non, moi aussi, ce film est une purge, une daube. Voilà.
Plus une daube du coup que Roi Arthur, puisque
ah,
toi,
je préfère le Roi Arthur.
Ouais. Parce que déjà, il n'y a personne qui se met torse nu dans Alien Covenant.
Bon. Ah,
est-ce que vous voulez parler d'un autre film ou pas? Vous voulez clore déjà le Alien Covenant? Est-ce que vous avez vu des films dernièrement dont vous voulez parler?
Non. Oui, j'ai revu Alien 1 et Alien 2, j'ai adoré.
On avait pensé à faire un Alien Premium, peut-être que ça va venir à un certain moment.
Ah,
ce serait pas mal qu'on se fasse
un
full Alien, et si on est ultra chaud... Alien versus Predator.
Ah non.
Ah, j'aime bien, moi, je veux
et
bien.
Et Prometheus et...
Ah non.
Je dis les Alien versus Predator. Hein, mais
et Prometheus, c'est pas possible.
Il faudrait que je le revoie, hein, ceci dit. Mais moi, je me souviens d'avoir eu une vision de magnifiques, magnifiques plans, notamment au début du film. Et même de ressortir du film en me disant, putain, c'était bien fait, mais mal écrit.
Après, je pense que c'est une mise en abîme de la destinée de Ridley Scott, quoi. C'est Ridley Scott est un androïde perdu sur une île déserte qui essaye de créer quelque chose à partir de dessins vieux, de vieux symboles, de vieux.
Cela dit,
et il essaie, il n'y arrive plus, ça marche plus.
Non mais c'est intéressant. Mais attends, mais c'est intéressant parce que je t'avoue que j'y ai rapidement un peu pensé parce que je me suis dit, regarde, si tu mets en parallèle Ridley Scott et David, ok.
Ouais.
David, il prend quoi? Il prend le sport.
Ouais.
Le sport qui existe, ok, qui a été fait par les créateurs. Le sport qui, et pour moi, il n'y a rien à améliorer parce que le sport est génial. C'est-à-dire qu'en
mais
gros,
oui.
Tu marches
les
dessus.
Les œufs servent à rien. T'es mort.
Tu marches dessus, t'es mort et en plus, tu
ne le vois même pas
autour.
Bien
tu
sûr.
Vois.
Silencieusement.
Et pour moi, ça, c'est Alien 1. C'est-à-dire qu'en fait, il avoue que lui-même, c'était un des créateurs dans Prometheus qui a fait le sport. Et il fallait pas le toucher, il fallait rien faire de plus, sauf que il est en train de dire que tout ce qui s'est passé après, c'était des gens comme David, et lui-même y compris, qui essayent de reprendre le truc pour au final faire plus ou moins la même chose, mais moins bien. Et pour tuer des gens, et pour refaire littéralement Alien 1, dont c'est lui le créateur aussi, donc c'est assez... C'est genre le serpent créationniste qui se mord la queue, en fait.
Ouais.
Parce que tu pourrais très bien voir ce film comme une critique de... cesse de vouloir faire mieux et abandonne la franchise, ça y est, ça a été fait, le sport est génial, Alien 1 est génial, bon Alien 2 aussi aussi, mais tu n'as plus rien à raconter sur un alien, c'est pas grave.
Oui, trouve
autre chose. Va le mettre sur une vraie planète par exemple, qu'est-ce que ce serait avoir un alien pas isolé quelque part. Ok. Une pandémie, genre bien comme sûr. Un truc de zombie, mais avec, avec Alien. Bien ce qui était d'ailleurs dans les...
Dans les Alien vs Predator 2.
Oui, quelque part, même si c'était là encore circonscrit à une seule ville, un seul village, mais...
Il y a un côté arien chez l'android, tu vois. Donc, il y a un côté homo-érotique arien, tu vois,
c'est
génique.
C'est ce que je préfère en général, les porno-gays racistes, j'adore.
Non, si, c'est ça, tu sais, le tu sais, il embrasse l'autre android qui est blond comme lui, si tu veux, et il lui dit, viens créer avec moi une race expurgée de la viande, tu vois, il lui dit...
On reste dans le truc du botaniste, de l'eugéniste qui veut ne garder que les souches qu'il aime.
Voilà, et c'est Adolf Hitler chez Truffaut. Major Dylan.
Mais il a raison, je veux dire, il peut faire ça. Il décide de faire ça. Mais la question, c'est pourquoi, en fait. Parce que je sais pas
pour
si
se
vraiment
venger de son
il
créateur.
Prend du plaisir. Parce qu'en fait, je comprends pas d'où vient exactement sa haine.
Mais
de
il
l'humain.
A été créé par la viande, du coup, il veut tuer la viande pour s'émanciper.
Parce que, au moins.
Il tue le père, il tue la viande.
Quoique je pourrais comprendre le fait que. Regarde, il a vu le créateur, donc le gars de Prometheus, tuer Wayland. Donc il se dit, moi du coup je ne suis pas intéressé par là d'où je viens, mais ce que je peux créer, mais je sais pas exactement en fait.
Parce que qui a créé les ingénieurs, tu vois?
Oui voilà, ah, les ingénieurs.
Il aurait pu chercher, tu vois.
Ouais, mais après tu vois c'est intéressant comme formulation de se dire, ouais non c'est intéressant que l'androïde n'est intéressé que par créer et pas par là d'où il vient. On en revient au final, c'est le mythe du héros aussi, c'est le roi Arthur aussi. Ça, tu sais, il y a toujours cette dichotomie de est-ce que tu préfères penser à ton futur ou penser à là d'où tu viens, mais au final, tu as besoin de savoir de là d'où tu viens pour assurer un futur correct, tu vois. Mais là, il est tellement vague ce personnage que. Parce qu'en plus, on nous rajoute aussi le personnage de Wayland, et j'aurais beaucoup plus aimé avoir un truc sur Wayland, tu vois, pour aussi m'éclairer sur, sur David, mais je sais pas. Voilà.
Enfin, c'est de la merde, allez pas le voir. Passez du temps avec les gens que vous aimez, serrez-les dans vos bras. Et...
Jouez de la flûte aussi.
Faites de l'eugénisme aussi. Hein, sélectionnez des partenaires sexuels qui vous ressemblent. Bon, on va s'arrêter là. Cet épisode est très très bizarre, je sens que je vais passer 1000 heures à le monter et à rien garder en fait. Bon allez, bisous à tous.
Bisous.
Au revoir.
Salut.
C'est nimp.
Tu vas galérer.
C'est nimp.
Tu vas tellement galérer.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.